On va ouvrir le livre des livres. On va ouvrir le livre le plus répandu au monde, le plus vendu au monde. Est-ce que vous le saviez, ça ? En introduction, je dirais, si nous avons été un jour sauvés, c'est aussi pour servir la cause du meilleur des maîtres. Et ce maître, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. On sert le Seigneur de différentes manières. On peut servir le Seigneur au travers, par exemple, même du nettoyage que certains font. Vous servez Dieu, frères et sœurs. Et ça, le Seigneur saura vous le rendre en temps et en heure. On sert Dieu au travers, par exemple, du club des enfants. On peut servir Dieu au travers d'un ministère don. Le ministère pastoral est un ministère don et il y en a 5 qui sont désignés. On peut servir Dieu au travers d'un don reçu par Dieu. On peut servir Dieu ce matin, par exemple, au travers du don de prophétie. Il y a plusieurs façons de pouvoir servir Dieu. Vous êtes d'accord avec moi ? Mais ce matin, je voudrais qu'on puisse reconsidérer, peut-être redéfinir, finalement, dans le fond, en quoi consiste réellement le fait de servir Dieu. S'il y avait un titre à donner, ce serait celui-là. En quoi consiste le service auquel Dieu nous appelle ? Je crois que c'est une question qui va concerner tous les chrétiens ici présents. Et la Bible nous apporte des éléments de réponse que j'aimerais tranquillement ce matin vous partager. Je ne pourrais pas bien sûr énumérer toutes les réponses. On va juste se cantonner à 3 réponses. En quoi consiste réellement le service auquel Dieu nous appelle ? Dans le fond, c'est quoi servir Dieu ? 3 réponses. La première, le service auquel Dieu nous appelle consiste premièrement à suivre Jésus. C'est d'ailleurs Jésus lui-même qui l'a rappelé à ses disciples. Et je vous invite à prendre avec moi Jean chapitre 12 et le verset 26 pour commencer. Jésus qui parle et qui dit « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. » Et il précise « Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. On a souvent entendu ce slogan évangélique. Il faut le rajouter, préciser, sauver pour servir. Qui l'a déjà entendu ce slogan ? On l'a tous entendu. Mais au vu de ce que nous venons de lire dans Jean chapitre 12, verset 26, il faudrait peut-être réajuster, excusez-moi l'expression, réajuster ce slogan évangélique. Et plutôt dire, nous avons été sauvés pour servir, dans le but, nous avons été sauvés certes pour servir, mais précisons, nous avons été sauvés pour suivre le Seigneur afin et dans le but de le servir. Vous voyez la nuance ? Sauvés, certes, pour servir, mais plus précisément, sauvés pour premièrement suivre le Seigneur afin et dans le but de pouvoir par la suite pleinement et convenablement le servir. Il y a cet autre passage dans la Bible, c'est dans l'Évangile selon Saint Marc, au chapitre 3, les versets 13 à 15, et il nous est fait mention du Seigneur Jésus, encore eh bien, face à ses disciples. La Bible nous dit, il monta ensuite sur la montagne, et il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui, et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Mais au verset 13, vous l'avez lu comme moi, Jésus monta sur la montagne, il appela ce qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Le verbe ici, venir, trouve sa source dans un mot grec, dans un verbe grec, aperkomai. Et aperkomai veut dire quoi ? Quitter dans le but de suivre quelqu'un. Donc avant de prétendre servir le Seigneur, et en l'occurrence pour les 12 disciples que le Seigneur a choisis, prêcher l'évangile, avoir le pouvoir de chasser les démons, il a fallu, en réponse à l'appel divin, il a fallu qu'ils quittent peut-être leur occupation, qu'ils quittent tout, afin de pouvoir servir le meilleur des maîtres, à savoir Jésus-Christ. En fait, suivre Jésus, c'est être dans les conditions, je précise, favorables, pour pleinement servir Dieu. Vous comprenez ce que je dis, frères et sœurs? C'est tellement, tellement important. Approfondissons peut-être la question concrète. Que veut dire suivre Jésus? Puisqu'on a compris que suivre Jésus va nous permettre d'entrer dans les conditions favorables pour servir pleinement le Seigneur. Questionnons-nous, c'est quoi suivre Jésus? Suivre Jésus, c'est un jour croire en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Croire en son œuvre. Suivre Jésus, c'est un jour avoir expérimenté ce qu'on appelle la repentance et le miracle de la nouvelle naissance. Suivre Jésus, c'est aussi prendre l'engagement de pouvoir suivre le Seigneur. Et on le signifie par l'acte du baptême d'eau. Ce que certains vont expérimenter eh bien, dans quelques dimanches. Le baptême, c'est quoi? C'est l'engagement d'une bonne conscience à l'égard de Dieu. Et quand on a compris ces choses, on comprend qu'un inconverti ne peut pas pleinement entrer dans un service dans la maison de Dieu, c'est impossible. Parce qu'il serait confronté à des choses saintes. Et le service de Dieu est quelque chose de saint. Amen ou pas amen, frères et sœurs? Et ce que je dis là, c'est, ça concerne aussi nos enfants. Les enfants de chrétiens, d'une manière générale. Tant qu'ils n'ont pas expérimenté la repentance, tant qu'ils n'ont pas pris une décision, celle de pouvoir suivre le Seigneur, il ne faut pas qu'on les enrôle dans un service régulier dans la maison de Dieu. Ce serait les exposer. Et ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Au contraire, attardons-nous, certainement avec l'assistance du Saint-Esprit, à pouvoir les conduire à découvrir le meilleur des maîtres, les inviter à pouvoir suivre Jésus-Christ, et après, Dieu lui-même se chargera de leur montrer dans leur cœur ce à quoi Dieu les a destinés, ce à quoi Dieu les a préparés. Vous comprenez ce que je dis? C'est tellement important. On a trompé des enfants de chrétiens en les mettant dans des fonctions, etc., dans l'Église, pensant que plus tard, eh bien, ils s'accrocheront au Seigneur, mais c'est un faux raisonnement. C'est un faux raisonnement. Le Seigneur ne mettra jamais la charrue avant les bœufs. C'est un Dieu d'ordre. Et il nous faut d'abord prendre conscience. Alléluia de ce Seigneur. Il faut d'abord être réconcilié avec lui avant de prétendre pleinement pouvoir le servir. Mais je crois que vous êtes d'accord avec moi. Suivre Jésus, c'est accepter également d'être son disciple. Et être disciple du Seigneur, c'est accepter d'être sous une discipline. C'est suivre pleinement les pas du Seigneur. Suivre Jésus, c'est s'appliquer à le ressembler. Le ressembler jour après jour. Au travers eh bien, de nos faits et gestes, apprendre à penser comme il pense, à agir comme il agit, à parler comme il parle. On l'a lu en introduction, Jean chapitre 12, verset 26, je me permets d'y revenir, Jésus qui parle et qui nous dit ce matin, si quelqu'un me sert, autrement dit, si quelqu'un prétend me servir ce matin, qu'il me suive. Il va préciser, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Où se trouve le Seigneur, tiens? Il dit, là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Le Seigneur Jésus a toujours veillé à être au cœur même de la volonté de Dieu. Et c'est là où nous, en tant que chrétiens, mais aussi en tant que serviteurs, nous sommes appelés à être au cœur même de la volonté de Dieu notre Père. Et on le regarde au travers des évangiles, Jésus, durant toute sa vie terrestre, a bien toujours accepté d'aller là où le Père l'a conduit. C'est ça, servir Dieu. Et lui-même l'a expérimenté, ce chemin, il n'est pas, peut-être pas toujours parsemé de pétales de rose, excusez-moi l'expression. Sur ce chemin, il y avait de la souffrance, il y avait des larmes. Mais voyez-vous, le Seigneur Jésus, par amour pour chacun d'entre nous, et parce qu'il obéissait pleinement à la volonté de Dieu son Père, Jésus-Christ, il a été jusqu'à la mort, à la mort même de la croix. C'est ce que nous voudrions toujours eh bien, réaliser toutes les fois où nous nous rassemblons d'une manière plénière. Quelqu'un a pris notre place, le Sauveur du monde, Jésus le Fils de Dieu. Dieu est venu littéralement en chair, eh bien, venir se réconcilier avec le genre humain. Et vous êtes heureux ce matin si vous avez compris ces choses. Vous êtes heureux, alléluia, ce matin, si eh bien, vous vous êtes pleinement réconcilié avec ce Seigneur d'amour qui a accepté comme un parfait substitut, de prendre notre place sur le bois infâme de la croix. Jésus, durant sa vie terrestre, a toujours accepté d'aller là où le Père céleste le conduisait. Et quelque part, nous aussi, nous devons accepter de suivre Jésus. Suivre Jésus dans ce chemin de renoncement. Suivre Jésus, eh bien, lorsqu'il nous demande, eh bien, de perdre. Parce que quelquefois, il faut perdre pour en retour gagner. Suivre Jésus, c'est marcher en contre-courant de ce monde. Suivre Jésus, eh bien, c'est refuser de rendre le mal pour le mal. Suivre Jésus, c'est être conforme, eh bien, à la volonté de Dieu qui est exprimée au travers de sa parole. Suivre Jésus, c'est accepter un renoncement, une abnégation de tout notre être. Et accepter, même s'il le faut, aller jusqu'à la mort. Tel un sacrifice. Je dis souvent, les chrétiens, ils pêchent au travers de leur chant, leur cantique. Il y a un vieux cantique qu'on chantait, il dit « Ah Seigneur, que je n'aspire une seule chose, à m'immoler. » Vous connaissez ce cantique? Est-ce que c'est réellement vrai? En tout cas, le véritable serviteur de Dieu, ou la véritable servante de Dieu, c'est celui ou celle qui accepte d'aller là où le Seigneur le conduit. Et là où se trouve le Seigneur Jésus, là aussi se trouvera son serviteur. Une deuxième réponse, le service auquel Dieu nous appelle consiste également à écouter la voix de notre Seigneur Jésus. Amen ou pas amen, frères et sœurs? C'est simple ce que je vous dis, mais c'est là où le bât blesse. C'est là où peut-être eh bien, nous avons du mal à comprendre, du mal à écouter. On change de décor, on va rejoindre ces trois disciples qui ont expérimenté quelque chose de particulier. Ils sont montés avec le Seigneur Jésus sur une montagne et nous lisons cet épisode, non pas cette fable, mais ce témoignage eh bien, certain de ce qu'ont expérimenté eh bien, ces trois disciples. Matthieu chapitre 17 du verset 1 à 6. Matthieu chapitre 17 du verset 1 à 6. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici, on peut le comprendre. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Et comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Et lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Il faudrait qu'on s'arrête déjà sur la remarque de Pierre. La Bible nous dit que Pierre, à un moment donné, a dit « Il est bon que nous soyons ici » au verset 4. Et puis il renchérit en disant « Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Et là, il y a une première remarque à faire. Servir Dieu ne consiste pas à faire eh bien, ce qui nous semble bon, ne consiste pas non plus à nous faire plaisir, mais servir Dieu consiste à écouter Dieu nous révéler sa volonté. Et comme dit la Bible, sa volonté qui est bonne, agréable et parfaite. Vous savez, ce qu'on constate, c'est que souvent, dans nos projets, parce qu'on est fort pour faire des projets, mais nos pensées ne sont pas celles de Dieu. Nos voix ne sont pas celles du Seigneur. D'ailleurs, c'est le livre d'Ésaïe qui le dit, ne le cherchez pas. Ésaïe chapitre 55, les versets 8 et 9. Dieu va utiliser la bouche de son saint prophète et va dire « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Quand on a compris cela, on arrête de faire des plans sous la comète. Parce que des idées, on peut en avoir. Des suggestions. « Ah, ce serait bien. Oh Seigneur, il est bon d'être ici. » Pierre avait parlé avec sentiment, Pierre avait parlé sous le coup de l'émotion, on aurait fait pareil, ne le jugez pas. C'est nous, ça, Pierre. Pierre, c'est chacun d'entre nous. Et puis regardez bien, pire encore, inconsciemment, Pierre propose à Jésus une nouvelle, une forme de trinité. Il dit, ben, établissons la trois tentes, une pour toi, Seigneur Jésus, mais une pour Élie, une pour Moïse. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et jamais associé un être humain avec la personne de Jésus. Et Dieu, dans sa bonté, a voulu bien rappeler les choses à Pierre, mais aussi à Jacques et à Jean qui étaient là présents. Une nuée les couvrit. Et le Seigneur, comme pour rectifier le tir, on le relit au verset 5 et 6, « Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ses paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et il rajoute, et c'est ce qui est important pour nous, « Écoutez, écoutez-le. » Le propre du serviteur de Dieu, le propre de la servante de Dieu, c'est qu'il apprend, il applique son cœur à pouvoir reconnaître la voix du bon berger. Samuel, avant qu'il soit ce prophète, qu'il soit ce juge puissant bien parmi le peuple d'Israël, il a fallu qu'il apprenne à écouter la voix de Dieu. Oui ou non, frères et sœurs? Et ce n'est pas la première fois qu'il a reconnu la voix de Dieu. Trois reprises, il est venu vers le sacrificateur Élie. Et Élie va lui dire, mais ce n'est pas moi qui t'ai appelé. Puis à un moment donné, ça a cogité dans la tête du sacrificateur. Et il va dire à Samuel, eh bien, la prochaine fois tu diras, parle, car ton serviteur écoute. On a besoin de nous familiariser à la voix de notre bon berger. D'ailleurs, Jésus l'a dit, quand il parlerait, eh bien, ses brebis entendraient sa voix et le suivraient. C'est important d'écouter la voix de Dieu. Je rappelle encore cet homme, il m'a marqué, hein. C'était un SDF, et il m'a dit tout fort, oh, mais tu sais, ton Dieu, il n'est pas loquace, il ne parle pas. Je dis, comment il ne parle pas? Si nous étions assez sensibles à la voix du Seigneur, il nous parlerait chaque jour. Et nous découvrions une chose, c'est que finalement, le Seigneur, il veut vivre le quotidien avec nous. Il ne veut pas vivre seulement ces moments, car merci Seigneur, Dieu parle. Et heureusement, et j'espère qu'on écoute, ce matin, il parle par des dons spirituels. Il supplie à bien ceux et celles qui ont besoin de se réconcilier avec lui, de pouvoir venir à lui. Il est la source. Il nous a parlé de différentes manières ce matin. Mais quand on va sortir tout à l'heure, Dieu va continuer à nous parler. Amen ou pas amen, frères et sœurs? C'est lui qui a créé la langue. Il ne peut pas parler. Noé a dû écouter la voix de Dieu avant d'entreprendre une construction. Et quelle construction? Une construction qui allait le sauver lui et sa famille. Une construction, selon les commentateurs, qui a duré plus d'un siècle. Il avait intérêt à bien écouter la voix de Dieu. Toute son énergie, toute sa vie, il l'a dépensée dans la construction de cette arche. Mais il l'a fait avec une assurance, avec une profonde conviction, parce qu'il a écouté la voix de Dieu. Lui aussi, en son temps, il a été un serviteur de Dieu. Que dire également de Philippe, l'évangéliste Philippe, qui a été au-devant des Samaritains et qui a vécu quelque chose d'extraordinaire? Non pas lui qui a fait les choses, c'est la puissance du Saint-Esprit. On a eu raison de chanter ce matin, roi, souffle. C'est lui qui est capable de changer le mal en bien. C'est lui qui est capable de transformer les cœurs. Et Philippe, à un moment donné, a entendu la voix de l'Esprit de Dieu qui lui a dit « Avance et approche-toi de ce char. » Et mes amis, on a besoin, nous aussi, d'être sensibles, d'apprendre à écouter la voix du Saint-Esprit qui nous dit « Fais ceci. » Fais cela, avance et approche-toi des personnes de cette ville. Et le Saint-Esprit va nous pousser, même cet après-midi, plaise à Dieu cet après-midi, qu'on entende la voix du Saint-Esprit, va nous conduire à aller au-devant de ce jeune homme, au-devant de cette jeune fille, au-devant de ce couple, au-devant de cette mamie, au-devant de cet adolescent, pour lui communiquer une parole de vie qui sera bouleversée son cœur et sa vie. C'est pour cela qu'on a besoin de sortir. On a besoin de sortir de nos chaises, mes amis. On a besoin d'évangéliser, parce que le Seigneur est à la porte. Et il compte sur son Église pour que nous puissions nous lever, que nous puissions servir la plus belle des causes, le royaume, l'avancement du royaume des cieux. Lorsque nous apprenons à écouter Dieu, quelque part, nous devenons des sources de bénédiction pour le prochain. C'est le livre d'Ésaïe qui le confirme, Ésaïe chapitre 50, le verset 4, juste le verset 4. Il nous est dit, « Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille, chaque matin, il éveille mon oreille pour que je parle, pour que je prie, pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Et je le dis, nos moments personnels avec Dieu ne consistent pas seulement à parler à Dieu. Du début à la fin, on parle à Dieu, on ne laisse même pas le temps à Dieu de nous parler. Mais nos moments personnels avec Dieu doivent aussi consister à faire silence au plus profond de notre cœur et à dire comme le jeune Samuel, parle, car ton serviteur, ta servante écoute. Amen ou pas amen, frères et sœurs. Le Seigneur l'Éternel m'a donné, c'est Dieu qui donne. Et la Bible dit, Dieu ne se repent pas de ses dons, ni de son appel. Il donne, il fait comme il veut. Et il est capable de vous donner une langue exercée, mais il est capable de vous donner eh bien, un don qui sera là, eh bien, utile pour soutenir les personnes que vous allez rencontrer. Mais pour cela, il y a une condition que nous voyons dans ce même verset 4. Il faut que nous soyons éveillés. Chaque matin, au début de notre journée, dans notre quotidien, éveiller notre oreille, exercer notre oreille. Pour que nous apprenions à écouter comme écoutent les disciples. C'est tellement important. Servir Dieu consiste à pouvoir suivre le Seigneur Jésus. Servir Dieu consiste à pouvoir apprendre à écouter sa voix. Permettez-moi de terminer en disant que le service auquel Dieu nous appelle consiste à obéir à la voix de Jésus. Ce que je viens de dire auparavant et ce que je dis maintenant est intimement lié. Car le fait d'écouter Dieu nous amène immanquablement à obéir à sa voix. Comment puis-je ce matin prétendre à bien écouter Dieu sans obéir à sa voix ? Je ne sais pas si vous le savez, les verbes « écouter » et « obéir » sont... Eh bien, dans le texte originel grec, un seul et même mot, c'est le mot « akouo ». Et le mot « akouo » en grec se traduit par la façon suivante. « Akouo » veut dire « écouter dans le but d'obéir ». En fait, lorsque j'écoute Dieu, dans le vrai sens du terme, c'est toujours pour obéir. Et quand je n'obéis pas à Dieu, ce n'est pas compliqué, c'est parce qu'on a écouté de la mauvaise manière. On a à la rigueur entendu Dieu, parce qu'il faut faire la différence. On peut entendre ce que Dieu dit ce matin. Peut-être certaines personnes ont entendu la prophétie. Et peut-être ne l'ont-ils pas pleinement écouté. Quand j'écoute de la bonne manière, quand j'écoute eh bien dans le vrai sens du terme, c'est ni plus ni moins pour obéir. Un bon serviteur ne discute pas les ordres de Dieu. Il les accomplit. Et il les accomplit en plus avec diligence. Il y a le psaume 119 qui dit la chose suivante, psaume 119, verset 60. Je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. Bien au contraire, un bon serviteur s'exécute promptement car il sait que l'obéissance à Dieu est toujours source de bénédiction. Tournez-le comme vous voulez, il y a des gens qui peuvent se rouler, jeûner, faire tout ce qu'ils veulent. Mais parce qu'ils n'obéissent pas, la bénédiction est bloquée. Et nous voudrions ce matin être intelligents et comprendre aussi que pour servir Dieu, il nous faut aussi également obéir à Dieu d'une manière diligente. Je reviens à l'expérience que nous avons vécue au travers de ce temps de jeûne et de prière, ces 4 jours. C'est quelquefois le désir mais qui me pousse à pouvoir bien vous donner aussi certains témoignages, mais je ne puis le faire d'une manière précise à cause du respect de l'intimité des uns et des autres. Mais croyez-moi, pendant ce temps de jeûne et de prière, des foyers ont été restaurés, des vies ont été renouvelées, des gens ont pris des positions concrètes et ils ont vu la gloire de Dieu, ils ont vu la bénédiction de Dieu dans leur vie. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont résolus, ils se sont résous à pouvoir obéir à Dieu. Et ça, c'est une loi spirituelle. Et si je suis pleinement un serviteur de Dieu, il me faut obéir pleinement à la voix du Seigneur Jésus. Je vous ai déjà raconté ce témoignage de cette chrétienne. C'est un fait vrai, véritable. Une personne qui avait un mal incurable. Elle a été auprès de plusieurs médecins. Personne ne pouvait la guérir. Mais le problème de cette sœur, c'est qu'elle avait une rancune, une amertume un peu profonde de son cœur. Et Dieu lui avait déjà parlé. Elle avait entendu la voix de Dieu, mais elle n'avait pas pris le temps d'écouter la voix de Dieu, c'est-à-dire dans le but d'obéir. Mais quand elle a choisi de pouvoir pardonner, cette personne, puisqu'elle était à distance de celle qui l'avait offensée, a pris le téléphone. Et dès qu'elle a commencé à exprimer ce qui était dans son cœur et à se réconcilier avec cette personne, son offenseur, à l'instant même, et c'est elle-même qui le raconte, elle a été visitée par le Seigneur et complètement guérie de son mal. Il faut qu'on le comprenne, frères et sœurs. Je vais crier, je vais hurler, je vais louer le Seigneur, je vais faire des sacrifices. Mais ce que Dieu recherche, c'est avant tout l'obéissance. Et pour être serviteur de Dieu, servante de l'Éternel, il faut obéir. L'obéissance à Dieu est avant tout une question de volonté. Là aussi, vous pouvez tourner la chose comme vous voulez. C'est une question de volonté. Parce que Dieu ne nous demandera jamais des choses que nous ne pourrons pas faire. C'est vrai qu'il y a des choses difficiles à faire. Mais Dieu va prendre le relais, va nous assister, va nous aider. Mais ce qu'il nous demande de faire, c'est possible, c'est faisable. Et ça, il faut le croire pour le voir. La vraie question est, est-ce que nous voulons réellement obéir à Dieu ? Est-ce que nous voulons vraiment ce matin être des serviteurs et des servantes de Dieu ? Alors il nous faut obéir. Je crois que c'est mardi soir que j'ai parlé sur Jonas. Jonas est quelqu'un qui avait entendu la voix de Dieu, mais qui n'a pas voulu obéir. Et pour cause, vous savez que Dieu lui avait demandé d'aller dans cette ville de Ninive pour avertir les habitants. Dans 40 jours, cette ville serait détruite. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Allez, aidez-moi. Il a détourné le dos et s'est détourné de la volonté de Dieu. De là où il était, il fallait 950 kilomètres. Il fallait quand même les faire. Hein, 950 kilomètres pour aller à Ninive. Mais de là où il était, là où il est parti, c'est-à-dire dans le sens diamétralement opposé, il y avait 4000 kilomètres. Et il a payé de son énergie, j'ai envie de dire de sa poche, pour faire 4 fois plus de chemin. Tout cela pour s'opposer à la volonté de Dieu. Pour ça, je vous dis quelque part, au travers de cet exemple, ce que nous sommes capables de faire lorsque nous ne voulons pas obéir à Dieu. Et le constat, on le connaît, Jonas, par sa désobéissance, il a perdu beaucoup de temps, c'est le cas de le dire. Il mit en plus des marins en péril, parce que quand il a pris le bateau, je crois que c'était à Joppé, au beau milieu de la mer, alors qu'il était au fond de la cale à dormir, Dieu a bien secoué un petit peu le bateau, c'est le cas de le dire. Et là, il a mis aussi en péril les marins qui étaient là, qui n'avaient rien demandé. Et de même, j'ai envie de le dire, nous pouvons mettre notre entourage en danger à cause de notre désobéissance, à cause de notre insoumission, à cause du fait que nous ne voulons pas être pleinement ces serviteurs que Dieu attend. J'ai dit, il y a la forme, c'est clair, je l'ai dit en introduction, on peut faire beaucoup de choses, même dans l'Église, mais ce qui importe au Seigneur, c'est premièrement qu'on puisse le suivre, qu'on puisse écouter sa voix, mais surtout qu'on puisse obéir à ce qu'il nous demande de faire. Et vous savez, pour revenir à Jonas, ce qui lui est arrivé par la suite, il a demandé aux marins de le jeter par-dessus bord, et la Bible nous dit littéralement un grand poisson, et je l'ai dit mardi, n'allez pas me dire que c'est une baleine, hein. Pas une baleine, parce que je crois qu'il y a encore des choses à découvrir sous cette terre. Dieu ne nous a pas tout révélé. Quand on comprend qu'encore que les scientifiques découvrent jour après jour de nouvelles espèces animalières, Dieu a fait sortir du fin fond des fosses marines ce énorme poisson qui a avalé Jonas et qui lui a permis de vivre 3 jours dans son sein. Et je l'ai dit mardi, croyez-moi, ce moment-là, il a fait la prière de sa vie. La prière de sa vie, c'était une question de vie et de mort. Et de la même façon, Dieu peut permettre que nous soyons pour un temps engloutis par les épreuves, juste à cause de notre désobéissance. L'expérience de Jonas peut être l'expérience de quelqu'un qui voit sa situation bloquée et qui ne peut ni avancer ni reculer, mais qui est là, littéralement, dans le ventre même des épreuves, la souffrance, parce que Dieu veut lui parler et il ne l'a pas encore compris. Dieu veut qu'il écoute alors qu'il continue à entendre. Dieu veut qu'il écoute afin qu'il puisse pleinement obéir. Frères et sœurs, que Dieu nous garde de toute désobéissance. Que Dieu nous garde. Mais qu'au contraire, nous puissions emprunter la prière de David, qui en son temps, alors qu'il était repentant, il a dit dans Psaume chapitre 51 et le verset 14, « Rends-moi la joie de ton salut, et surtout qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Et je prie qu'il y ait un esprit de bonne volonté dans nos cœurs pour accomplir la volonté de Dieu. Qu'il y ait un esprit, alléluia, d'obéissance dans nos cœurs, afin que le Seigneur soit réjoui en voyant l'Église d'Istre se lever comme un seul homme et entrer pleinement dans la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Je voudrais terminer. En conclusion, il nous faudrait revenir dans le texte de base, Jean chapitre 12 et le verset 26. Je le relis, nous le relisons ensemble, c'est Dieu qui nous parle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Et il précise, si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Et Dieu notre Père céleste honorera tout le service que nous effectuerons conformément à sa volonté. C'est une question de temps. La Bible nous parle d'un tribunal de Christ et nous comparaîtrons devant le Seigneur. Et là, nous aurons des récompenses, frères et sœurs. Les larmes, les souffrances liées à votre service, eh bien, sera, ne vous inquiétez pas, récompensé. Et Dieu est juste. Et c'est aussi, nous le connaissons, c'est un Dieu d'abondance. Il nous donne la vie en abondance, puisqu'il nous a même donné la vie éternelle. Mais croyez-moi, les récompenses seront au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. C'est pourquoi l'apôtre Paul aussi va dire par ailleurs à 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58, dernier verset, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Il n'a pas dit « Travaillez de plus en plus. » Il y a même des chrétiens qui connaissent des burn-out à force de faire de plus en plus. Dieu ne nous a pas dit de travailler de plus en plus. Il nous a dit de travailler de mieux en mieux, d'une manière intelligente, d'une manière efficace. Et pour travailler d'une manière efficace, eh bien Dieu nous a rappelé que son service consiste avant tout à le suivre, consiste également à pouvoir écouter et obéir sa voix, que nous puissions comprendre ces choses et surtout les mettre en pratique. Prions ensemble le Seigneur. Merci de nous parler. Nous l'avons chanté tout à l'heure, Seigneur souffle, et tu veux souffler. Tu as dit dans les derniers temps, tu répandrais ton esprit sur tes serviteurs et sur tes servantes. C'est ta volonté. Mais tu veux, Seigneur mon Dieu, avant tout trouver dans nos cœurs un désir profond de toujours suivre Jésus. Un désir profond de pouvoir écouter ta voix et non pas seulement l'entendre. Écouter ta voix pour obéir à ta volonté, qui d'ailleurs est bonne, agréable pour nos vies. Seigneur, mets un esprit de bonne volonté, mets un esprit d'obéissance dans nos cœurs. Aide encore ce matin une personne, un frère, une sœur, à pouvoir passer le cap et obéir à ce que tu lui demandes de faire.